Benjamin Hu à la réalisation et Alex Dang à la technique. Bonjour à tous. Une petite grande table jusqu'à midi et demi, en partenariat toujours avec les Assises internationales du roman de Lyon qui déclinent plusieurs thèmes cette année pour leur édition virtuelle, dont celui de l'incertitude et celui du huis clos. Toute la semaine, pour fêter le livre et la réouverture des librairies, nous donnons donc la parole aux écrivains et prenons des nouvelles de nos voisins, après l'Espagnol Javier Cercas et le Britannique Philip Sands, et avant l'Israélien Edgar Keret et la franco-rwandaise Scolastique Mukasonga. Aujourd'hui, rendez-vous avec la romancière, scénariste et réalisatrice italienne Cristina Comencini. Après avoir clôturé la 14e édition du Festival international de Rome, son nouveau film Tornare, retourné, a pris le chemin des plateformes de streaming le 4 mai dernier. En mars dernier, sortait en France son nouveau roman, Quatre amours, c'est chez Stock.
La grande table. Olivia Jesbert.
Notre vie me semblait un édifice inébranlable et la fin de nos relations individuelles une chose simple et naturelle. Mais maintenant, j'ai peur de mourir, le manque de bonheur crée chez moi la peur de la mort. Un extrait de Quatre amours, ce roman qui paraît chez Stock et qui met en scène la vie partagée et la séparation de deux couples de quinquas, sexagénaires, Martha, Andrea d'un côté, Pierrot et Laura de l'autre, des personnages qui se connaissent, se croisent et tentent de comprendre ce qui leur arrive, quitter ou être quitté. Bonjour Cristina Comencini.
Bonjour à vous.
Bonjour, bonjour, merci d'être avec nous par téléphone, par liaison. Vous êtes à Rome en ce moment. C'est là que vous avez trouvé, vous, votre refuge.
Je suis à Rome où j'ai été confinée, disons. Mais où d'habituellement, avant d'être confinée, je vis. Mais je vis aussi à Paris. Donc j'étais confinée à Rome, ça aurait pu être Paris aussi.
Donc ça a été Rome pour ces longues semaines de confinement, début du déconfinement ce lundi en France. Ouais. Vous avez pris un tout petit peu d'avance sur nous, mais vous avez été aussi confinée avant nous. Que signifie pour vous l'incertitude, Cristina Comencini, ce mot qui est à l'honneur du festival des Assises internationales du roman dont nous sommes partenaires, ce mot qui soulève beaucoup de questions aujourd'hui et qui résonne incroyablement.
L'incertitude, pour moi, personnellement, je pense que j'ai toujours vécu dans une sorte d'incertitude. Donc, la certitude me fait très peur. La certitude des propos me fait très peur. Le fait qu'on n'a pas de doute et le fait qu'on n'a pas la sensation d'une fragilité. Je pense que ce qui est arrivé, la seule chose dans la tragédie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en sont morts et surtout les personnes âgées, je pense que c'est de nous avoir amené à une sorte de fragilité humaine, d'une fin, d'une espèce de omnipuissance. Et donc, dans l'incertitude, c'est aussi le fait qu'on essaye, qu'on peut se tromper, qu'on regarde ce qui fait l'autre aussi, et on sait qu'il y a des limites. Alors pour moi, l'incertitude, ça me pose le problème des limites, qui à mon avis, et ça produit beaucoup de richesse. C'est un mot qui n'est pas négatif pour moi.
Oui, c'est pas simplement douloureux ou pas simplement négatif, c'est pas forcément paralysant. On vous qualifie souvent de romancière de l'intime et c'est vrai, et c'est le cas avec ce nouveau roman Quatre amours qui paraît chez Stock, que vous aimez dépiauter, décortiquer, tenter d'analyser sans poser de jugement ou de constat définitif les relations humaines, les relations hommes-femmes notamment. L'incertitude, ça c'est un sentiment, une notion qui est au cœur du sentiment amoureux et c'est pas forcément négatif.
Ben disons que c'est le sentiment amoureux est toujours incertain parce qu'il peut changer, il peut finir. Et en même temps, dans le livre, il y a une espèce de un peu d'amertume pour le fait que notre monde, qui est le monde des séparations, parce que c'est la chose qui nous arrive à tout le monde, c'est très rare, non de Il y a une phrase, je pense, dans le livre qui dit que la chose la plus anti-moderne, c'est d'aimer une personne toute la vie. Donc c'est la modernité, c'est l'incertitude des relations et tout ça. Mais ça, c'est une chose qui est même positive dans le sens que je disais avant, mais en même temps, ça apporte des mémoires et des moments de douleur parce qu'on perd, on perd. Sur notre chemin, on perd quand même quelque chose. On n'a plus, les choses n'ont plus de durée. Et donc ça, c'est un monde nouveau, c'est une chose... Moi, je travaille beaucoup sur ça, j'écris parce que ça me semble la chose qui a le plus changé au monde, c'est les relations hommes-femmes. C'est une chose qui a été complètement, si on pense à nos parents, déjà à la génération d'avant, c'est vraiment une chose qui est totalement changée. Je pense que de se revoir, de voir, la littérature permet ça, de se regarder, de voir les choses, ça donne un sens un peu plus au-delà de nous-mêmes, de notre relation seulement, mais on rentre dans le monde un peu, de tout le monde.
Que se passe-t-il derrière les cloisons du roman? Quelles possibilités vous offre-t-il? Que pouvez-vous raconter, explorer dans vos romans ou qui ne pourraient pas voir le jour autrement? C'est aussi cette question qui sera posée à la Villa Gillet ce jeudi, dans une table ronde qui réunira des écrivains du monde entier. Vous dites que le roman, c'est la possibilité d'ouvrir une fenêtre sur l'intérieur.
Oui, sur l'intérieur et donc sur l'extérieur.
Pourquoi les deux sont indissociables?
Ils sont indissociables parce que disons que le monde qu'on a à l'intérieur, on le partage avec les autres. Moi, je pense qu'une des choses qu'on a le plus, qui nous marque le plus, c'est que peut-être ce qui est en train de nous arriver pourrait nous faire réfléchir, c'est l'idée que c'est pas seulement les individus, que c'est quelque chose qui est une société entière, si vous voulez. C'est quelque chose qui met en relation les gens. La façon dont on aime, dont on s'aime, dont on fait avec laquelle on fait des enfants, le couple, mais pas seulement, les différents couples, les relations aussi du côté social, qui sont à mon avis presque les plus importantes. Tout ça, c'est quelque chose qui nous comprend. Et la littérature met un pot sur ça, c'est-à-dire que elle donne la sensation qu'en regardant par la fenêtre, donc dans un huis clos, dans un intérieur, comme ça a été le cas de ces jours-ci, on voit quand même un extérieur. Ces jours-ci, il a été désert, ce qui aussi donne beaucoup à penser. Mais on regarde l'extérieur. Et les deux choses se communiquent comme une fenêtre ouverte, fermée. Et c'est ce qui aussi définit un peu les relations de famille. C'est-à-dire que c'est un huis clos, on veut fuir de là, et on veut aussi l'avoir parce que ça nous protège. Donc c'est l'intérieur et l'extérieur sont en communication, toujours.
Oui, on cherche à y revenir et à repeupler nos intérieurs. Vous êtes, on l'évoquait, une romancière qui s'intéresse à ces deux espaces et aux interactions entre l'intérieur et l'extérieur qui sont loin. Et vous venez de nous le confirmer, d'être deux espaces hermétiques. On l'a bien vu ces 8 dernières semaines avec le confinement dans nos pays. Quel est l'effet, à votre avis, quel effet le confinement va avoir sur les couples? Est-ce que ce sera un moment de vérité, d'après vous, pour beaucoup?
Disons qu'au début, comme on est tout le monde a très peur de ça, d'être. Nous, on a très peur du manque de liberté. C'est-à-dire que nos sociétés sont bâties sur la liberté, je dirais même une liberté premièrement individuelle, je dirais même individualiste des fois. Et donc on a eu très peur que les couples n'éclatent et tout ça. Or, et c'est sûrement arrivé, sûrement il y a eu de la violence et tout ça. Mais c'est incroyable que moi j'ai beaucoup d'histoires qui au contraire disent que, et ça pose des problèmes, que le fait de passer du temps ensemble, de ne pas être toujours à bouger et de, disons, penser à la vie privée comme un espace où on passe très peu de temps pour s'enfuir tout de suite. Ça a redonné dans la complication des vérités de fond entre les couples. Et des fois c'est positif et des fois négatif. Mais de toute façon, c'est un processus, je crois, important et profond. Ce que disent les amis, les gens qui sont restés en couple comme ça, et moi-même, disons, c'est une autre vérité qu'on n'a pas le temps de voir, voilà. Ça ressemble un peu à ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est-à-dire regardons ce qu'il y a au fond d'une séparation. On se sépare, bon, c'est vrai, c'est fini, bon, on passe à autre chose. Alors la littérature essaye de faire ça, non? De faire un peu le tour d'une mémoire, qu'est-ce qu'on fait des choses qu'on a ensemble, de mémoire commune et tout ça. Donc je pense que dans les maisons, un peu, ça s'est passé un peu comme ça.
La rupture, à la fois si banale et si douloureuse, ici c'est le vécu de Laura que vous racontez dans ce roman Quatre Amours, Christina Comencini, qui paraît chez Stock. Le matin, tôt, à l'aube, il était déjà levé et il me l'a dit. Ses mains, ses joues, ses yeux, son pyjama froissé, ses cheveux ébouriffés, son corps intime, familier, celui de tous les jours. Les mots n'avaient aucun sens, ou en avaient un, dans un autre monde, pas dans notre séjour, ni à la table de la cuisine ou dans les salles de bain. Pendant qu'on se lave les dents, lui sous la douche, qui se frictionne la tête avec une serviette, qui prend un caleçon propre dans la commode, un pantalon, une chemise, des chaussettes. Les deux vérités, celle des mots et celle des gestes, n'ont jamais coïncidé dans mon esprit, ni ce matin-là, ni maintenant. Peut-être ne coïncideront-elles jamais.
Pendant 22 ans, j'étais la bonne à tout faire. J'ai surveillé tes employés, j'ai fait marcher tes affaires, géré tes pâtisseries, j'ai toujours pris tes intérêts à cœur, mieux qu'une épouse. J'ai soigné ta vieille mère, Dieu ait pitié de son âme, je lui ai même lavé les pieds. Et c'est pas aujourd'hui, à 40 ans, que j'ai commencé à faire ça. Dès le début, tu m'as exploité comme une bonne qu'on fait marcher, qu'on flanque à la porte.
Non, tu ne t'es jamais adapté. Tu n'as jamais été compréhensive. Tu ne t'es jamais rendu compte de la situation. Dès le matin, on te voit, cet air dur, cet air de te ficher de tout. C'est vrai, ça, tu n'as jamais été capable de la moindre émotion. Pendant toutes ces années, je ne t'ai encore jamais vu pleurer. Jamais!
J'aurais dû pleurer pour toi. Ce ne sont pourtant pas les raisons qui manquaient. Mais moi, je pleure pas pour ces raisons-là. Moi, au contraire, si je pleurais, je pleurerais de joie. Oui, je pleurerais de bonheur. Et toi, en 22 ans, jamais tu ne m'as fait pleurer de bonheur une seule fois. Jamais tu t'es vraiment occupé de moi, jamais. Oui, je sais que tous les péchés doivent se racheter. Mais bon sang, quand finit-on de payer ?
Voilà, les mots durs, Sofia Loren, Marcello Mastroianni, en version française, Mariage à l'italienne de Vittorio De Sica, dont vous venez d'entendre un extrait. Christina Comencini, vous mettez aussi en exergue de votre roman ces mots du chanteur Vasco Rossi. Vivre avec moi, tu as raison, ce n'est pas simple, et arrête de pleurer, nous sommes seuls. Combien de couples, en effet, hein, ont fredonné cette chanson pendant le confinement. Être ensemble, mais se sentir seul, être seul, on est au final, vous le pensez, toujours seul?
Non, je suis assez optimiste par rapport à la relation humaine, mais je pense qu'il y a un côté, on est fait de chacun de nous est fait de beaucoup de parties. Alors j'écoutais les dialogues très beaux que j'ai reconnus maintenant en français, mais oui, on se dit des choses terribles et puis tout à coup on sort et on se dit, mais pourquoi j'ai dit ces choses-là? Je pourrais renverser, non, je pourrais renverser tout ça. Donc il y a un côté où on est avec l'autre, on l'aime, et puis à un côté on ne supporte plus, on veut être seul. C'est dynamique, ça, c'est complètement, ça aussi c'est comme la fenêtre intérieure-extérieure. On a tout ça dedans nous. La vérité c'est qu'on est très riche, on a beaucoup de sensations différentes, et au fur et à mesure, elles nous semblent dans des moments, parce que les dialogues c'est très difficile dans le couple, de se parler, de se comprendre jusqu'au fond, de ne pas faire des équivoques. Les équivoques sont continus, mais le problème c'est que on a toutes ces sentiments dans nous et dans et le rapport des hommes et des femmes qui, je répète, a changé énormément. Ça les contient un peu tous ces sentiments. C'est pour ça que c'est très important d'en parler, d'en écrire. Pour moi, c'est d'une richesse incroyable, le rapport entre hommes et femmes, parce que c'est, ou le rapport de couple homme-homme ou femme-femme aussi. C'est le rapport choisi. Ce n'est pas le rapport entre enfants que tu as, que tu sais toi-même, c'est la famille. C'est le rapport avec quelqu'un qui est autre de toi, que tu as choisi. Ça contient beaucoup de choses.
Voilà, et pour beaucoup aussi, il y a la vie seule, hein, et ce sentiment de solitude qui peut être très pesant et que beaucoup ont dû subir pendant ces semaines de confinement. Notre monde est certes fait de séparation, d'individus libres et seuls, comme vous l'écrivez, mais la solitude subie, c'est pas la même chose que celle qu'on se choisit, comme votre héroïne Martha, même sans pouvoir l'expliquer. À ce propos, dans ces deux couples, les femmes sont des femmes fortes, des femmes solides. L'une d'entre elles parle, l'autre surmonte cette séparation, la comprend aussi, la pardonne, elle se reconstruit. On n'a pas évoqué ensemble, j'aurais aimé juste qu'on le fasse, ce que ce huis clos du confinement notamment peut provoquer. Il peut s'avérer dramatique pour beaucoup de femmes. On a noté un peu partout dans nos sociétés, dans nos pays, une augmentation des violences conjugales. On les avait craintes déjà. En Italie aussi, c'est une question qui commence à être soulevée, ces effets du confinement et la violence qui peut en découler.
Disons que le mouvement des femmes en Italie, ça fait très longtemps qu'il a porté à l'attention les féminicides. Et il y a une loi qui a été faite en Italie qui marche assez bien. Évidemment, le confinement, ça fait ressortir tout ça. Mais aussi, ça fait ressortir une autre chose, je voudrais dire, je suis peut-être une éternelle optimiste, ça fait ressortir que le travail, le double travail que font en majorité les femmes, il faut le dire encore, est un travail fondamental pour toute la société. En Italie, c'est un travail gratuit, je dirais même que le welfare de l'Italie, c'est le travail, le double travail des femmes. Mais en général, ça fait voir que dans ce cas-là, c'est notre privé qui a dû fonctionner pour nous peut-être sauver. Et donc ça, c'est une chose qui doit peut-être nous rester dans le cœur, c'est-à-dire que les relations, les maisons, la solitude aussi, parce que la solitude a été très très dure. Moi, mes amis qui sont seuls, même celles qui ont choisi d'être seules, ont quand même ressorti du fait qu'ils ne pouvaient pas aller travailler, parce que le travail est fondamental quand on est seul. Et donc je pense que tout ce tissu de relations, dont la santé, le soin aussi a été au premier, c'était la chose la plus importante, eh bien ce sont les fondements des sociétés. Moi je pense que le confinement a fait comprendre que le privé a été le public.
Et inversement, peut-être.
Oui, et inversement. Ouais.
La sacro-sainte famille italienne, Christina Comencini, comment elle va-t-elle survivre ou être changée, métamorphosée d'après vous par cette épidémie, par cette crise que nous vivons tous aujourd'hui?
Bon, elle a énormément changé, parce que moi dans mon livre je parle de couple de quatre Italiens qui sont des amis et qui se séparent, tout le monde se sépare ici aussi. Bon, évidemment il y a des couples qui restent encore ensemble, je ne vais pas dire si j'en étais, mais la tendance c'est complètement ça, même en Italie, qui est un pays, comme vous le savez bien, très catholique, tout ça encore, mais c'est quelque chose d'énorme qui est en train, parce que le rôle des femmes dans la famille a totalement changé, c'est ça.
Et celui des parents, et celui des parents et des grands-parents.
Oui, absolument. Tout a changé, donc évidemment, le premier effet, c'est la fragilisation des couples, des familles, disons. Moi, je pense que c'est, d'un côté, c'est compliqué, mais de l'autre, que c'est très intéressant de rechercher. C'est comme si l'amour, les familles, les relations étaient en train de... C'est un work in progress, c'est en train d'être rebâti. Mm. Et donc, on est tous dans le même enjeu. On essaie de comprendre comment avoir une stabilité, une durée des choses, dans une liberté et dans une parité aussi. Et ça, c'est une matière de très grand intérêt. En Italie, c'est la même chose. Je ne vois pas d'énormes différences, sauf que peut-être la France est un pays de droit, des droits. Ici, le mot est très important, mais il y a aussi d'autres choses, disons. Par rapport au droit, en Italie, il y a beaucoup l'idée qu'il y a des relations et des priorités qui ne sont pas toujours définies par des droits. Voilà, je ne sais pas si je me fais comprendre.
Non, ce serait quoi, des traditions, des coutumes? Non,
oui, c'est des histoires, les histoires de chacun, les histoires des mondes, la relation de solidarité, de tolérance,
des valeurs.
C'est-à-dire que pas tout, les valeurs, pas tout doit être inscrit dans les droits. C'est plutôt, ou bien les devoirs aussi. Comment dire? C'est un peu, peut-être que ça nous vient aussi d'une formation, disons catholique, je sais pas, mais, moi je suis à moitié protestante, donc je suis hors de la, parce que mon père il était vaudois, donc je suis à moitié protestante, mais la majorité des Italiens évidemment est catholique, et il y a ce côté, lui, des valeurs partagées.
Dans Quatre amours, votre roman, Christina Comencini, qui vient de paraître en français chez Stock et qu'on peut trouver désormais dans nos librairies qui sont en train de rouvrir tout doucement depuis lundi, il applique la loi du temps à ses souvenirs. Roberto, le physicien que Laura, la femme quittée, va rencontrer à Milan où elle se fait soigner d'un cancer du sein. Dans l'espace, le temps fluctue, passé, futur, présent, change de position selon les événements, raconte-t-il. Ce sont des données contingentes. Le temps, une notion qui est au cœur aussi de cet extrait du film Fantôme d'amour de Dino Risi.
C'était notre refuge, tu te souviens? Nous nous disions comme ce serait beau d'avoir la clé de la porte, d'entrer dans le jardin.
Je me souviens, mais ça fait tellement longtemps et...
tellement longtemps, oui. Tu crois vraiment que ça existe, le temps ?
Le temps, s'il existe ?
Le temps qui nous fait vieillir, qui nous consume, il existe, celui-là. Au-dedans de moi, je n'ai pas vieilli, Nino. Je suis toujours celle d'avant, l'Anna d'autrefois. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Je n'en suis plus, embrasse-moi. Je t'en prie.
1981, Fantôme d'amour, et là encore, Marcello Mastroianni en dialogue avec Romy Schneider. Vous l'avez vu, ce film, Christina Comencini ?
Moi, oui, 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 oui.
La suite c'est de la scène romantique. Est terrible, hein, ouais, mais elle repart et, ouais, et lui ouais. S'essuie la bouche ouais. Avec un mouchoir. Ouais. Voilà, le temps
c'est
ne.
Désespéré.
Ouais. Et le temps de film ouais. Ne coule pas de la même manière sur chacun des êtres, en tout cas dans cette scène. Comment vous. Vous appréhendez, vous mesurez ce temps très particulier en ce moment, ce temps distendu.
Oui, le temps, c'est la matière du livre aussi. C'est incroyable, je le ressens maintenant. C'est aussi la matière de mon film « Tornare ». Donc, c'est évidemment quelque chose qui, de ces temps-là, je pense beaucoup au temps. Oui, le temps de confinement, le temps, ça a été complètement, ça a changé, tout a changé. C'est-à-dire que tout à coup, on a été dans des moments de vide. Alors les premiers temps, moi personnellement, j'essayais de le remplir. Et puis je n'y arrivais pas parce qu'il y avait une sensation des autres aussi qui étaient confinés comme moi dans les autres maisons qu'on voyait depuis les fenêtres. C'était un peu comme le film de Hitchcock, non ? Mm-hmm. Fenêtre sur course. On regardait les autres, ils sont là, on se saluait des fois. Et donc le sens là aussi que c'était un temps dilaté comme dans les films de Sergio Leone, non ? Il y a une dilatation du temps, c'est-à-dire que chaque seconde, chaque minute était très très long. Et en même temps, je pense que ça aussi, c'est un peu comme nous disent les Orientaux, non, c'est très difficile pour les Occidentaux de rester assis, de rester dans le vide. Donc le confinement nous a donné ça, mais pourquoi le perdre complètement ? Je pense qu'on a la mémoire des êtres humains, la mienne aussi, de tout le monde, un peu courte, on va peut-être le perdre, mais on pourrait essayer de garder un petit peu dans nous aussi.
Tornare, votre film Retourné, c'est un film aussi sur la mémoire, sur la redécouverte d'une maison, des souvenirs, une sorte de quête intérieure. C'est un film qui, là encore... presque tombe à pic hein, pour le confinement, cette manière d'explorer aussi notre passé et notre intériorité. J'avais une petite question, est-ce que vous avez changé beaucoup de choses de votre intérieur ? Est-ce que vous avez profité de ces semaines pour faire le vide, pour bouger les meubles ? Est-ce que vous avez réorganisé votre intérieur pour qu'il soit le reflet de votre état d'esprit ?
Absolument oui. Oui, je sais par des amis que tout le monde nettoie les maisons, met en place les choses, change les lieux. Mais ça aussi, c'est une façon un peu de bouger tout le temps, disons-le, mais aussi de reprendre l'espace qu'on ne voit presque plus. Parce que là, il y a l'habitude, évidemment, mais c'est le sens de qu'on ne les voit pas, les choses. On ne voit plus les livres, on ne voit plus les objets. Tout à coup, on se remet à regarder les espaces. Donc moi aussi, j'ai fait ça. J'ai changé le séjour. J'ai fait des déplacements et moi aussi, je suis tombée dans ce piège. Mais c'était bien aussi de rester à la maison un peu. Évidemment, j'ai été très angoissée. J'ai passé toutes les phases, je pense, comme tout le monde. Il y a eu des moments aussi d'angoisse. Et puis, on ne sait pas encore, hein. C'est pas fini, la chose n'est pas finie, et donc ça nous pose un problème pour en revenir à l'incertitude.
Et comme elle n'est pas finie, apprendre un peu. Elle n'est pas finie, mais est-ce qu'on peut commencer à imaginer l'après ? Et notamment, comment va-t-on faire pour coexister avec un virus ? Vous nous racontez dans vos romans et dans vos films que le mystère de la coexistence homme-femme déjà reste entier. Alors comment coexister avec un inconnu, ce virus, invisible, pour reprendre aussi la formule de votre gouvernement à propos de la phase 2 ?
Mais moi, je sais pas, je suis comme vous tous, c'est-à-dire on essaie de comprendre. Je pense qu'il faut un peu comme dans toutes les choses qu'on vit, d'un côté avoir l'idée que qu'il faut quand même un peu se dire, il faut suivre les choses, il faut avoir des masques, il faut distancier, même si les masques c'est une chose aberrante, non, parce que on voit pas le visage des gens, on voit pas les hommes, les femmes, on sait pas si on a plus de, c'est comme des formes humaines qui s'évitent dans les rues, donc c'est, à mon avis, c'est terrible, mais il faut le faire. En même temps, il faut essayer de temps en temps de ne pas y penser. Parce que l'autre chose, c'est par exemple le fait que l'information est toujours sur ça, que ça donne une idée. Ça s'agrandit, ça devient énorme. Je sais que c'est très compliqué, ça va être compliqué. Mais il faut quand même, je pense, de temps en temps, chercher à revivre un peu sans cette présence continue.
Le monde de demain... Vous avez envie de l'imaginer, on l'entend avec optimisme, de le redessiner, de l'écrire, de le penser peut-être comme un monde meilleur. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a accompagné particulièrement durant ces semaines de confinement ?
Oh, c'est toujours une question très compliquée. Attendez, j'essaye de me rappeler. Ben, j'ai lu le livre, ben, un livre en français, j'ai lu le livre de Leclésio sur le Mexique et sur la conquête du Mexique. Qui est la fin d'une civilisation. Et ça, je trouvais très, très angoissant. Ben, c'est un livre très, très beau, qui raconte très bien tout ça, le Cortés et tout ça, toute l'histoire. Et c'est un peu le fait qui, qui me faisait relativiser aussi les choses, parce que, ben, on essaye de garder nos civilisations qu'on aime, mais en même temps, là aussi, il faut un peu savoir que les choses changent. On essaye d'orienter le changement, mais par exemple, j'ai une chose qui me semble très importante, c'est de ne pas nous faire manger par le virtuel. Ça me semble énorme, parce que ça peut être vraiment la fin d'une civilisation qui était basée sur le contact physique, sur le fait d'être dehors, d'être avec les gens et tout ça. Ça me semble une chose... Et je pense qu'on peut quand même faire quelque chose. On ne doit pas faire comme les Mexicains qui ont cru que les envahisseurs étaient des dieux. Les GAFA ne sont pas des dieux. C'est des instruments techniques qui sont très importants, mais ça ne doit pas diriger complètement notre vie, je pense.
Virtuel qui nous a permis de garder le contact et la communication aussi pendant cette période-là. C'est toujours le paradoxe, une époque paradoxale. On va se quitter, Christina Comencini, avec quelques notes de la Traviata. Pourquoi la Traviata de Verdi ? Parce que l'Opéra de Paris vient de mettre gratuitement en ligne, dans la mise en scène de Simon Stone, avec la grande soprano Preti Yende dans le rôle titre, cette captation intégrale. Elle est donc disponible sur le site de l'Opéra depuis lundi jusqu'au 9 novembre. Voilà l'Italie qui reste très près de nous aussi. C'est un peu grâce au virtuel qui aide quand même la culture à partager encore aujourd'hui, Christina Comencini, en France comme en Italie. Un grand merci à vous d'avoir passé cette demi-heure avec nous pour la reprise de cette petite grande table. Quatre amours, votre nouveau roman, vient de paraître chez Stock. Merci Christina Comencini, merci beaucoup.
Merci, et aussi de la musique, oui. Et des extraits de films.
Merci.
Merci.
Les Incises internationales, merci du roman 2020, édition virtuelle, sont à voir donc et à suivre sur villagilet.com. Net. Merci à Oriane Delacroix, Laura Dutèche-Pérez et Henri Leblanc qui prépare de chez eux cette émission avec l'aide très précieuse de Marceau Vassy et Philomène Viard.